Delphine est l'une des possibles destinataires de la célèbre lettre à l'immortel bien-aimé, retrouvée comme le testament d'Heiligenstadt après la mort du compositeur. De nombreuses hypothèses ont été émises sur la destinataire de cette lettre enflammée, mais le mystère demeure entier.
Mon ange, mon tout, mon moi, notre amour ne peut-il vivre que d'immolation? L'amour exige tout et il a bien raison. Il en est ainsi de moi avec toi et de toi avec moi. Si fort que tu m'aimes, je t'aime encore plus fort. Déjà au réveil, mes pensées se pressent en foule vers toi, mon immortel bien-aimé. Je ne peux vivre qu'avec toi, complètement ou bien pas du tout. Jamais une autre ne possédera mon cœur, jamais, jamais. Ton amour a fait de moi à la fois le plus heureux et le plus malheureux des hommes. Éternellement à toi, éternellement à moi, éternellement à nous.
Beethoven a toujours été en relation amoureuse. Il avait un pouvoir de séduction que n'importe quel Adonis lui aurait envié. Avec Joséphine, il a été vraiment amoureux. Et elle, semble-t-il aussi, parce qu'il y a quelques lettres, elle s'éloigne progressivement, ce qui le rend très malheureux.
Le compositeur entre alors dans une intense période de travail. Dans ses carnets, il écrit
« Ne cherche plus à cacher ta surdité, que l'art aussi en ait connaissance. »
Il compose quelques-unes de ses œuvres majeures. Ainsi, la sonate Appassionata ou les Quatuors opus 59 dédiés au comte Razumovsky. Extrêmement novateurs, ils sont largement incompris à l'époque.
Ça repousse les limites des instrumentistes. La fugue, le final du Razumovsky 3, c'est compliqué de
exactement.
De commencer si vite, si virtuose, et puis d'être ensemble aussi, à quatre, d'être dans le même bouillonnement.
Au moment de Razumovsky, je crois qu'il est en train de se dire j'ai plus peur de rien, je suis en train de devenir sourd, c'est peut-être déjà la fin de ma carrière, donc j'essaye, vaille que vaille, et il fait ce mouvement lent de l'opus 59.1 qui est un truc où on a l'impression que après ça, une fois qu'on est passé à travers ça, les symphonies de Bruckner, c'est pas indispensable.
Totalement romantique là. C'est cette quinte descendante. Et d'ailleurs, ce mouvement-là se termine comme une âme qui s'envole comme ça. Ça se délite parce qu'il n'y a plus rien à dire.
Comme si c'était le moment où sa musique, c'est la plus présente, la plus vivante et celle qui a le plus d'air. Mmh. Avec un compositeur dans la force de l'âge qui, comme un géant pour qui le monde serait trop petit. Il est déjà dans le romantisme, il est déjà dans l'âme russe. C'est incroyable, ce sont des musiques ultra vivantes et ultra En ça, pour moi, c'est les quatuors quasiment les plus novateurs.
En 1806, il se brouille avec son principal mécène, le prince Lichnowsky, qui lui avait demandé de se mettre au piano pour distraire quelques officiers français. Outré d'avoir pu être considéré comme un vulgaire exécutant, Beethoven claque la porte et, furieux, écrit au prince.
« Prince, ce que vous l'êtes par le hasard de la naissance. Ce que je le suis par moi. Des princes, il y en a et il y en aura encore des milliers. Il n'y a qu'un Beethoven. »
Il ne se considérait pas comme un serviteur. Cela signifie qu'il n'avait pas accepté les différences de rang social. Je pense que c'était une personne très sûre d'elle. Il savait très bien ce qu'il valait et ce qu'il pouvait faire. Et cela se voit aussi dans son rapport avec les nobles. Il ne faut pas non plus oublier que Beethoven pouvait se le permettre. C'était un compositeur très célèbre et tout le monde savait ce qu'il valait. Il pouvait faire des choses pour lesquelles d'autres se seraient fait renvoyer et n'auraient plus été invités.
Brouillé avec plusieurs de ses bienfaiteurs, Beethoven pense à quitter Vienne. Mais avant de partir, il souhaite proposer aux Viennois un aperçu de ses dernières créations. Le 22 décembre 1808, en plein air, il donne quelques-uns des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique, dont le 4e concerto, la 5e symphonie ou encore la 6e symphonie, baptisée Symphonie pastorale ou Souvenir de la vie rustique.
La symphonie pastorale n'est pas un tableau. On y trouve exprimées en nuances particulières les impressions que l'homme goûte à la campagne. Que je suis heureux dès que je peux errer dans les taillis, dans les forêts, parmi les arbres, les herbes et les rochers. Aucun homme ne saurait aimer la campagne autant que moi.
En 1815, Beethoven perd son frère bien-aimé, Karl. Celui-ci lui a confié avant de mourir la co-tutelle de son fils, également prénommé Karl, avec la mère de l'enfant. Mais Beethoven ne peut supporter sa belle-sœur Johanna, qu'il surnomme « la reine de la nuit ». Suivront 5 ans de lutte acharnée pour la garde de l'enfant, car Beethoven se passionne pour son neveu, à tel point qu'il signe les lettres qu'il lui adresse, « ton père ».«
Tu considéreras Karl comme ton propre enfant, et tu négligeras toutes les misères et les bavardages dans ce but sacré. Renonce aux opéras et à tout le reste. Écris seulement pour ton orphelin. » Puis trouve une chaumière où terminer ta misérable vie.
À l'été 1818, Beethoven est avec Karl à Mödling, un bourg à côté de Vienne où il séjourne de plus en plus régulièrement.
Je me promène ici avec un morceau de papier à travers les monts, les gorges et les vallées. Je barbouille beaucoup de choses pour du pain et de l'argent. Pour faire une grande œuvre, il me faut toujours auparavant me livrer à de durs griffonnages.
Ces griffonnages sont les prémices de l'opus 106, la monumentale sonate Hammerklavier.
La sonate Hammerklavier reste un cas en dehors de tous les autres. Par sa longueur, par sa violence, par sa tranquillité, par sa profondeur. C'est un univers. Chaque sonate est un univers, mais ça c'est un continent. Le mouvement lent, c'est plus de 20 minutes. Et on ne peut pas devenir impatient le jouant. Il faut vraiment trouver la concentration la patience qu'il faut pour exprimer tout ce qu'on voit dedans, les tensions harmoniques, les tensions mélodiques, les tensions dynamiques. Beethoven avait vraiment une idée très claire, à mon avis, de ce qu'était la musique. Ça veut dire que la musique est basée sur le contrepoint, sur le dialogue, sur les différentes voix. Notre existence doit avoir du contrepoint. Moi, je dis quelque chose, quelqu'un d'autre dit autre chose. Après, il y a un dialogue, ou il y a une discussion, ou il y a un conflit. Mais c'est toujours ça. Et en même temps, il y a toujours un élément qui unit tout ça. Et chez la Hammerklavier, c'est vraiment énorme. C'est un édifice à l'américaine de 130 étages.
Maintenant, je sais écrire. Voilà une sonate qui donnera de la besogne au pianiste quand on la jouera dans 50 ans.
Ces trois dernières sonates pour piano paraissent entre 1820 et 1822. La vie de Beethoven est à présent tout intérieure, car sa surdité est totale et il communique désormais avec son entourage par des cahiers appelés « cahiers de conversation ». Comme le révèlent ces cahiers ainsi que sa correspondance, Beethoven se consacre désormais corps et âme à un projet qu'il porte en lui depuis près de 30 ans, la 9e symphonie.
So, wenn man kann nicht nur crescendo nur so machen, sagst du, was so macht es? Ja, ba 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 ba. Bitte einmal, wo wir das Tempo etabliert haben, im Fortissimo, wo wir das Tempo etabliert haben, nicht breiter werden, nicht versuchen, oh, 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 oh. Ja, es ist schon deutsch genug. Fortissimo.
Dans la correspondance de Beethoven consacrée à la 9e, figurent plusieurs lettres d'insultes. Elles sont adressées au copiste chargé de recopier les partitions du compositeur.
Imbécile, prétentieux animal que tu es, devra-t-on encore mettre des gants avec un chenapan pareil qui vous vole votre argent? Au lieu de ça, qu'on lui tire ses oreilles d'âne? Bousilleur de scribe, crétin, corrigez donc les fautes que vous avez commises par ignorance, outrecuidance, présomption et stupidité. Cela vaudra mieux que de prétendre me faire la leçon, car c'est exactement comme si la truie voulait enseigner Minerve.
Ferdinand Wolanek est l'un des copistes les plus importants de Beethoven. Il ne faut pas oublier à une époque sans photocopieuse, sans autre possibilité de reproduction, que la musique était diffusée et reproduite grâce à la copie. Ce Ferdinand Wolanek était dans une position très difficile. Il devait en effet produire en très peu de temps une copie de la 9e symphonie pour Beethoven, et ça ne fonctionnait pas entre eux.